Vous écoutez On lit pour vous.
En juin, je lis Autochtone, deux livres jeunesse abordant le pensionnat et ses conséquences. Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 dans le carnet Je lis Autochtone. 1. Shirley, une histoire de pensionnat indien, de Joan Robertson et Shirley Fletcher Horn, traduction d'Isabelle Montagnier, Sagan Story Press, dès 9 ans. Shirley n'a que 5 ans quand l'agent des Indiens l'amène vivre dans un pensionnat autochtone. Elle adore apprendre, mais elle n'est pas là de son propre gré. Dès le premier jour où elle gravit la longue volée de marches en pierre de l'école, la vie est difficile et les règles sont innombrables. Séparée de ses frères et sœurs, elle est livrée à elle-même. Shirley est très courageuse, mais elle n'a personne pour la rassurer le soir quand elle a peur. Personne pour l'aborder et la réconforter. Et surtout, elle attend impatiemment l'été, car elle pourra alors retrouver sa famille et le bonheur d'être à la maison. 2. Le chandail orange de Mia, de Wanda John Kehewin et Erika Rodriguez Medina, traduction de Christiane Duchesne, édition de Lisatis, dès 4 ans. Mia adore l'école et surtout l'heure du conte. Aujourd'hui, Mme Monroe leur raconte l'histoire d'une petite fille amenée un jour très loin de chez elle dans un pensionnat où on a coupé ses longs cheveux et enlevé sa poupée préférée. Les enfants autochtones devaient quitter leur famille et n'avaient pas le droit de rentrer chez eux à la fin de la journée ou pour les vacances. Mia, qui est la seule autochtone de sa classe, panique. Est-ce qu'ils vont venir la chercher pour l'amener loin de chez elle? Même si l'enseignante parle de porter un chandail orange pour se souvenir, elle n'écoute plus et une boule se forme dans son ventre. Plus tard, sa maman la rassure. Ses pensionnats ont été fermés bien avant sa naissance. Apaisée, elle retournera à l'école portant fièrement son chandail orange, pour ne pas oublier. C'était « En juin, je lis Autochtone », deux livres jeunesse abordant le pensionnat et ses conséquences. Un texte de la rédaction paru le 1er juin 2026 dans le carnet « Je lis Autochtone ».
Pourquoi avons-nous peur des clowns? Un texte paru le 23 mars 2023 dans le magazine Québec Science. La peur des clowns ne viendrait pas uniquement de leur représentation terrifiante dans les films. Cette peur aurait aussi comme origine leur apparence et leur comportement imprévisible. Toi aussi, tu as frissonné en regardant le film Ça? Ou t'es-tu déjà senti mal à l'aise en présence d'un clown? Sache que tu n'es pas le seul. Chez certaines personnes, cette peur des clowns peut même aller jusqu'à la phobie. C'est ce qu'on appelle la coulrophobie. Des scientifiques ont tenté de percer le mystère de cette peur des clowns et d'en comprendre l'origine. Pour cela, ils ont diffusé un questionnaire auprès d'environ 1000 personnes âgées de 18 à 77 ans et provenant de 64 pays différents. Les réponses ont montré que plus de la moitié avait peur des clowns à différentes intensités. Mais seule une minorité a déclaré en avoir extrêmement peur. Mais pourquoi avons-nous peur des clowns alors que ce sont des personnages farceurs et espiègles? Cette peur serait liée à la théorie de la vallée de l'étrange ou Uncanny Valley en anglais. Cette théorie avance que plus un personnage ressemble à un être humain, plus notre sympathie à son égard est grande. Lorsque cette ressemblance est très grande mais imparfaite, la sympathie laisse place à un sentiment de malaise, voire de dégoût. La sympathie revient lorsque la ressemblance humaine est quasiment parfaite. Par exemple, cette sensation d'inquiétude peut être déclenchée par des robots humanoïdes ou des poupées hantées. La peur des clowns viendrait aussi de leur apparence. Leur maquillage accentue les traits du visage et masque leurs vraies émotions. Il est alors difficile de comprendre et d'analyser ce qu'ils ressentent réellement, ce qui peut être perçu comme une menace par ton cerveau. Ce même maquillage, avec un teint blanc et des traits du visage rouge, nous rappellerait une mine malade. Nous donnant donc le signal d'une possible maladie contagieuse. Leur comportement imprévisible nous met aussi mal à l'aise. Comme nous ne savons jamais comment ils vont réagir, nous faire une farce ou nous faire peur, nous restons sur la défensive. Enfin, notre propre expérience peut être à l'origine de cette peur. Nous avons peut-être vécu une situation traumatisante dans notre enfance ou vu des clowns terrifiants dans des films. En effet, on observe une représentation négative croissante dans les séries ou les films mettant en scène des clowns tristes ou tueurs, comme le Joker dans Batman. Finalement, c'est sans doute un mélange de différents facteurs qui fait que nous avons parfois peur des clowns. De bonnes idées de costumes pour la prochaine Halloween. C'était « Pourquoi avons-nous peur des clowns ?», un texte paru le 23 mars 2023 dans le magazine Québec Science.
Rencontre après 60 ans. L'amour n'a pas d'âge quand on le trouve. Un texte de Marie-Ève Martel paru le 9 février 2026 dans Virage. Est-ce que je serai encore capable de séduire? Cette question habite Normandie, 69 ans, qui, au moment de s'entretenir avec Virage, était séparée depuis 4 mois. Entre sites de rencontres, agences ou 2 allées d'épicerie, des cœurs à prendre, au prix, nous racontent leur quête d'amour. Normand s'est offert un nouveau départ. Il a non seulement laissé derrière lui la ville où il vivait depuis des décennies, mais aussi un cercle d'amis qu'il fréquentait avec son conjoint des 15 dernières années. Renouer avec le célibat, à l'approche de ses 70 ans, n'a rien de simple. Normand ressent le besoin de retrouver la complicité avec un homme de son âge, mais la crainte de ne pas plaire l'assaille. Me tenir devant le miroir a été comme une confrontation, confie-t-il. Avec mon chum, on voyait la peau plissée, les cheveux grisonnés. On se disait que ce n'était pas grave, qu'on allait vieillir ensemble. La jungle virtuelle. Rencontrer, oui, mais comment? Se demande Normand, qui dit ne pas avoir envie de faire la tournée des bars à son âge. Internet? T'as toutes sortes de monde là-dessus, commente-t-il. T'as des jeunes qui veulent triper avec un daddy, mais moi, ça ne me fait pas triper pantoute. Les rencontres sur la toile ne sont pas la tasse de thé de tout le monde. Même si elle a aimé des hommes rencontrés en ligne, Marguerite, nom fictif, trouve de plus en plus difficile de trouver chaussure à son pied. Je cherche un compagnon avec qui faire des voyages, des sorties et des activités sportives, assister à des spectacles, sans nécessairement vivre sous le même toit. Élabore la célibataire de 68 ans, active sur le site Rencontres sportives. Je veux qu'on en profite pendant qu'on a du temps, pendant qu'on est en forme. Mais c'est juste un gros catalogue. Les hommes de mon âge vont chercher une femme pas mal plus jeune, déplore celle qui voudrait idéalement un compagnon de son âge et en bonne santé. Jamais mariée, celle qui a été mère monoparentale ne s'imagine pas non plus devenir la compagne d'un veuf. « Ce n'est pas mon monde à moi, » explique-t-elle. « Je n'ai pas vécu ce genre de connexion-là pendant des décennies avec une autre personne. Je ne cherche pas à combler l'absence de quelqu'un. » En plein dans le mille, Alain M., 64 ans, a eu plus de chance. Il a trouvé la bonne sur Facebook. Membre d'un groupe de rencontres dans la région de Valleyfield, il a fait la connaissance de Caroline l'été dernier. Après quelques rencontres, c'était officiel à la mi-septembre. L'amour était au rendez-vous. Dès nos premières sorties, on s'est rendu compte qu'on était fait l'un pour l'autre. On a déjà des projets. On se voit ensemble à long terme, témoigne celui qui ne cherchait pas nécessairement une partenaire de vie, mais qui avait gardé la porte ouverte au destin. Le même scénario s'est dessiné pour Sophia C., 61 ans. En juin dernier, elle a célébré son 3e anniversaire de couple avec Claude, qui l'a trouvé sur Facebook Rencontre. Une relation qui a pris un envol tout doux, tout simple, et qui suit son cours. Au départ, je ne lui en disais pas trop sur ma vie personnelle, raconte-t-elle. Je ne voulais pas qu'il ait un préjugé parce que j'étais grand-mère. L'amour à quelques pas de soi. Trouver l'amour au coin de la rue demeure un fantasme populaire. C'est ce qui est arrivé à Lindsay, 66 ans. Célibataire pendant quelques années, elle a erré sur les réseaux sociaux à la recherche d'un compagnon, qu'elle a finalement trouvé à son club de marche. « Cet homme ne m'aurait pas intéressé si j'avais simplement vu sa photo en ligne », admet-elle. Mais on avait des atomes crochus. On aime voyager, on a le même style de vie, on a la même santé physique. En vieillissant, il y a des choses qu'on ne veut plus, renchérit Lynn. Je suis autonome et indépendante. Je me suis forgé une vie en me disant que si je rencontrais quelqu'un, ça serait tant mieux, mais que si ça n'arrivait pas, ça serait correct, détaille-t-elle. J'ai bien essayé toutes sortes de sites et de réseaux, même les payants, en pensant avoir des prospects de meilleure qualité, renchérit-elle. Mais ça reste un marché de viande. Tu regardes l'étal et tu n'aimes pas. Et les agences de rencontres? Encore là, elle ne mange pas ses mots. Je n'aimais pas les photos qu'on avait prises de moi. Je me sentais comme un pichou. Qualifiant l'expérience d'échec colossal, elle déplore qu'on lui ait présenté un homme trop envahissant, sa relation la plus courte à vie et un autre ayant subi un traumatisme crânien, ce qui limitait l'éventail des activités possibles. « Ça m'a coûté quasiment 2 000 $ et j'ai fait de plus belles rencontres sur Facebook que là-bas, même s'il nous faisait remplir des formulaires et qu'on passait des enquêtes de sécurité », avance Lynn. Au moment de rédiger cet article, Lynn n'était pas encore prête à parler d'amour à propos de son prétendant, qu'elle fréquentait depuis quelques semaines à peine. « J'espère que ça va se développer », souhaite-t-elle. « J'ai rencontré quelqu'un de très bien. » Les personnes célibataires sondées sont unanimes. Même si elles sont bien entourées au quotidien, la peur de vieillir dans la solitude les hante parfois. Il y a une certaine tristesse à l'idée de finir seule, reconnaît Marguerite. J'aimerais que mon cœur batte encore pour quelqu'un. Je veux retrouver cette étincelle. Rencontrez prudemment. Vous avez un match en ligne? Voici quelques consignes de sécurité pour que ce premier rendez-vous soit des plus agréables. Ne communiquez aucune information personnelle. Attendez d'avoir la certitude que l'individu avec qui vous êtes en contact est bel et bien celui qu'il prétend être avant de vous engager sur une voie plus personnelle. Faites une brève recherche. Fouillez à l'aide des moteurs de recherche afin de vérifier si cette personne a déjà fait les manchettes pour une mauvaise raison. Donnez-vous rendez-vous dans un lieu public. Ne recevez pas cette personne chez vous et n'allez pas chez elle pour une première rencontre. Avisez un proche de votre sortie. Faites savoir à une personne de confiance qui vous rencontrez et où vous le ferez. Fournissez des informations sur votre rencontre et déterminez d'un moyen de communication si les choses tournent mal. Soyez sceptique. Demeurez à l'affût des signaux d'alerte. Par exemple, la personne a toujours des excuses pour ne pas vous voir en personne, vous avoue rapidement de forts sentiments ou vous demande urgemment de l'argent. C'était « Rencontre après 60 ans ». L'amour n'a pas d'âge, quand on le trouve. Un texte de Marie-Ève Martel paru le 9 février 2026 dans Virage.
Énergie renouvelable. L'éolien souffle sur le nord canadien. Un texte de Nelly Guidici, paru le 24 mai 2026 dans L'Aquilon. Alors que le gouvernement fédéral assure poursuivre ses efforts pour devenir une superpuissance de l'énergie propre, plusieurs projets d'énergie éolienne dans les trois territoires fournissent d'ores et déjà de l'électricité aux communautés dans lesquelles les éoliennes ont été installées. Voici un tour d'horizon des projets les plus innovants au Yukon, au territoire du Nord-Ouest et au Nunavut. Selon un rapport de la Commission de coopération environnementale qui a analysé la transition énergétique de 9 collectivités isolées et autochtones en Amérique du Nord, le projet éolien de la colline Akeltaitao constitue une étape importante vers l'acquisition de l'autonomie énergétique de la Première Nation Kwanlin-Dun à Whitehorse. En effet, les 4 éoliennes sont situées sur leur territoire traditionnel et sont à 100% détenues par KDFN par l'intermédiaire de sa branche commerciale Shu-Nikwan Limited Partnership, CNLP. Pour Sean Smith, chef de la Première Nation Kwanlin-Dun, ce projet vise à garantir un avenir où nos enfants et petits-enfants n'auront plus à dépendre du diesel. Il s'agit de construire quelque chose de durable pour les générations futures. Au sommet de la colline Akel, à quelques kilomètres au nord de Whitehorse, deux parcs éoliens de 2 éoliennes chacun ont une capacité totale de production de 4 mégawatts. Ces éoliennes, conçues aux Pays-Bas, ont été acheminées par voie maritime et installées en 2023. L'alimentation du réseau a débuté en mars 2024 et approvisionne aujourd'hui 500 foyers avec un objectif de 650 foyers dans l'avenir. Malgré les conditions rudes de décembre 2025 et janvier 2026, les éoliennes ont bien fonctionné. Mais quand le mercure descend en dessous de moins 40, les composants électroniques ne fonctionnent plus correctement. Les turbines sont donc passées en mode de protection contre les basses températures quand il faisait si froid afin de préserver les composants électroniques, précise Kaylee Wright, gestionnaire de projet à Norton Energy Capital, qui s'occupe de la logistique et du fonctionnement de ce parc éolien. Même s'il y a certaines contraintes liées aux températures, le vent est en général plus faible, voire absent, lorsque le thermomètre chute. Qu'est-ce que l'énergie éolienne? L'énergie éolienne consiste à utiliser la force du vent pour produire de l'électricité ou de l'énergie mécanique. Des éoliennes équipées de grandes pales sont installées dans des endroits bien exposés au vent et fonctionnent seulement lorsque le vent souffle à une vitesse adaptée. Suffisamment forte pour faire tourner les pales, mais pas trop pour préserver les équipements. Un emplacement stratégique. La colline Akel est connue depuis la nuit des temps. Dans la langue Tukchon du Sud, Tai Tao signifie le nid de l'aigle royal, et le site où se trouvent les éoliennes est dans le territoire traditionnel de la Première Nation Kwanlin-Dun. En 1990, le Centre boréal de l'énergie alternative, Boreal Alternate Energy Center, installe une tour de surveillance et mesure la vitesse du vent qui s'avère 10 fois plus élevée qu'à l'aéroport. Puis, en 2015, NEC conçoit le projet actuel et 5 ans plus tard, en 2020, la Première Nation Kwanlin-Dun en devient propriétaire par l'intermédiaire de sa branche commerciale Shu-Nikwan Limited Partnership. Selon le chef Sean Smith, il est vraiment important pour KDFN, mais aussi pour n'importe quelle autre Première Nation, de prendre les devants lorsqu'il est question d'énergie. En tant que nation autonome, nous ne sommes pas aussi grands que le gouvernement du Yukon, sans parler du gouvernement fédéral du Canada, et nous pouvons donc agir beaucoup plus rapidement. Face à la demande croissante du territoire qui fait écho à l'augmentation de la population dans la capitale depuis les dernières années, le Yukon a désespérément besoin d'un véritable apport d'investissement dans le système existant pour répondre à cette demande, rappelle M. Smith. Le projet éolien de la colline Akel Tai Tao est l'un des exemples concrets qui peuvent servir de modèle à d'autres communautés autochtones et, plus généralement, à toutes les communautés du Nord, pense le chef Smith. Dans le delta du Beaufort, à Inuvik, dans les territoires du Nord-Ouest, une éolienne en service depuis 2 ans a connu des niveaux de performance variables. Si, en 2024, aucun problème n'était survenu, les températures frigides de la fin de l'année 2025 ont affecté le fonctionnement de l'éolienne. Même si elle est connue pour fonctionner dans un environnement arctique, les équipements électroniques ont cependant des limites, indique Doug Prendergast, responsable de la communication chez Northwest Territories Power Corporation. Les longues périodes où la température est descendue en dessous de moins 40 Celsius ont posé quelques problèmes, souligne-t-il. Mais nous continuons à travailler pour augmenter son rendement et nos opérateurs acquièrent chaque jour davantage d'expérience. Au cours du dernier exercice financier, l'éolienne a produit environ 15 % de l'électricité de la communauté d'Inuvik, soit l'équivalent d'environ 4,4 gigawatt-heure d'énergie. Cette réalisation se traduit par plus de 2 millions de dollars d'économies de carburant, ce qui constitue un résultat positif même si l'objectif ambitieux de 10 gigawatt-heure de production annuelle visant à couvrir environ 35 % de la production énergétique totale de la communauté n'a pas été atteint. Selon M. Prendergast, l'éolien est considéré comme une option tout à fait viable, en particulier dans le delta de Beaufort, comme dans d'autres régions des territoires du Nord-Ouest. Je pense qu'il est juste de dire que les gens penchent soit pour des installations solaires, soit peut-être même pour la mini-hydroélectricité. Ainsi, chaque communauté a son propre contexte, ses propres avantages et inconvénients lorsqu'il s'agit de choisir l'option de production d'électricité la plus adaptée à ses besoins. Nous avons toujours collaboré avec ces communautés et nous sommes impatients de poursuivre ce travail afin d'atteindre un objectif que nous partageons tous, le gouvernement et les communautés, à savoir réduire la quantité de diesel que nous utilisons pour produire de l'électricité, explique-t-il. Quels sont les risques pour les oiseaux? Que ce soit au Yukon ou au Nunavut, des études d'impact sur la faune, en particulier les oiseaux, ont été menées en amont des projets. Au Yukon, le projet éolien de la colline Akel Tai Tao ne se trouve pas sur le parcours migratoire des oiseaux et au Nunavut, aucun incident impliquant des oiseaux ou des oies n'a été signalé depuis le début des travaux en 2023. Au cœur de la baie d'Hudson, une partie de l'électricité du village de Sanikiluak sur les îles Belcher au Nunavut sera bientôt fournie par une éolienne d'une puissance de 1 MW. Le projet Anuriqjuaq Nuqiqsautit ANP, qui a débuté en 2016, est encore en cours de développement, mais les différentes parties de l'éolienne ont déjà été livrées et sa mise en service commerciale est prévue pour l'automne 2026. La production annuelle prévue est entre 3000 et 4000 MWh. L'ANP vise à réduire d'au moins 50 % la consommation de diesel de la communauté pour la production d'électricité et cela permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 2397 tonnes de CO2 par an. L'achèvement du projet Anuriksuaq-Nukiksautit marquera la mise en place du tout premier projet éolien à l'échelle communautaire au Nunavut et concrétise une étape importante dans la transition énergétique du territoire. Ce parc éolien permettra de réduire d'au moins 50 % l'utilisation du diesel pour la production d'électricité dans ce hameau. Pour Clara Phillips, responsable des projets de développement chez Nunavut Nukiksautit Corporation, l'exploitation d'une ressource locale, propre et renouvelable, et la réduction de la dépendance aux combustibles fossiles, dont les Nunavummiut ne contrôlent ni le prix ni l'approvisionnement, apporte aux communautés un sentiment de fierté quant à leur capacité à subvenir à leurs propres besoins de matière indépendante. Il s'agit d'un acte de réconciliation dans la mesure où il redonne aux Inuits la capacité d'agir pour prendre en charge le développement et l'entretien de leur propre système et de prendre des décisions collectives conformes à l'Inuit Kojimajatukanjit, les valeurs sociétales inuites. En effet, ce projet a été développé par un promoteur détenu à 100 % par des Inuits. Alors que le Nunavut dépend actuellement à 100 % du diesel pour la production d'électricité sur l'ensemble du territoire et que cette situation n'est viable ni sur le plan environnemental, ni sur le plan économique, ni sur le plan social, tous les bénéfices seront partagés avec la communauté afin de soutenir les objectifs visant à améliorer la qualité de vie à plus grande échelle. Le reste sera investi conformément aux priorités régionales définies par les Inuits concernant la transition vers les énergies propres dans son ensemble. Détail, Mme Phillips. C'était Énergie renouvelable, l'éolien souffle sur le nord canadien. Un texte de Nelly Guidici, paru le 24 mai 2026 dans L'Aquilon.